Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Bonjour Alain Bauer.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Merci de répondre à mes questions ce matin avec évidemment une inquiétude qui monte, la peur qui s'installe à nouveau. Vous êtes responsable du pôle sécurité, défense, renseignement au Conservatoire national des arts et métiers. Vladimir Poutine qui annonce donc une mobilisation partielle en Russie et qui menace d'utiliser toutes les armes nécessaires pour se défendre. Est-ce à comprendre qu'il pourrait, dans les heures, dans les jours, dans les semaines qui viennent, utiliser une bombe nucléaire?
Oui, mais ça n'a rien de nouveau. Ça existe dans la doctrine militaire soviétique depuis 1963. Tous les manuels le répètent et le racontent. La grande différence, c'est que pour nous, l'arme nucléaire, c'est un tout indivisible. C'est l'arme nucléaire et donc l'arme nucléaire...
Pour nous, dans notre utilisation, dans notre stratégie, vous voulez dire ?
Moderne. Je rappelle que nous avions des armes nucléaires tactiques, le Pluton et le Hadès, jusque dans les années 80, jusqu'au moment où on s'est rendu compte que les seuls qu'on nucléariserait en cas d'utilisation de ces armes à courte et moyenne portée, c'était nos amis allemands. Donc on a arrêté.
Avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez simplement nous redire précisément quelle est la différence entre des armes nucléaires tactiques et des armes nucléaires stratégiques?
L'arme nucléaire stratégique, c'est la fin du monde. L'arme nucléaire tactique, c'est la fin d'une division blindée, d'une concentration de forces, une volonté de détruire un endroit spécifique avec des effets relativement réduits, puisqu'il va falloir ensuite occuper le terrain sur lequel on vient de détruire un adversaire ou un ennemi. Donc l'arme nucléaire tactique, dans la doctrine russe, est une arme conventionnelle. Ce n'est pas stratégique, ce n'est pas essentiel, ce n'est pas la fin du monde. Ils l'ont mis en dessous de la ligne rouge, nous l'avons mis au-dessus. Et nous ne parlons donc pas de la même chose. Quand Poutine parle d'armes nucléaires, ce n'est pas le même sujet.
Est-ce que ça veut dire que techniquement, ma question va vous paraître incroyablement naïve, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des armes nucléaires qui seraient des bombinettes comparées aux ogives nucléaires qui, elles, font des dégâts monumentaux? Est-ce qu'il y a un degré dans les dégâts provoqués par ces différentes armes?
Alors d'abord, on a des armes conventionnelles qui font plus de dégâts qu'une arme nucléaire tactique. Les bombes à fioul, par exemple, les bombes qui ont été utilisées en Irak ou lors de la première guerre du Golfe pour libérer le Koweït, sont des armes extraordinairement destructives qui annihilent l'oxygène, brûlent les poumons, détruisent des concentrations de forces tout à fait considérables et qui sont au-dessus de l'arme nucléaire tactique en termes d'effet sur une concentration humaine. L'arme nucléaire tactique, elle peut être de divers niveaux, mais elle est concentrée, limitée et réduite à un objet très petit.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça détruit un village, une ville?
C'est fait pour détruire une concentration blindée, un centre de production où il y aurait énormément de divisions ou d'armements et qui ne pourrait pas être atteint par une frappe conventionnelle simple. C'est vraiment un outil pour nous qui est nucléaire et qui est donc quasiment interdit, mais tardivement, et pour les Russes qui a toujours appartenu à leur arsenal. Et quand Poutine, dans son discours de 14 minutes est un concentré de tous ses discours précédents. Il est d'ailleurs plein de contradictions. Un bout, c'est une partie des élites occidentales, le reste, c'est tout l'Occident qui est l'ennemi, donc c'est pas la même chose. Il ne parle pas aux mêmes personnes. Et il dit deux choses. Il dit, nous utiliserons toutes les armes utiles et nécessaires dans le cadre de la guerre, dont il dit plus ou moins, dont il utilise plus ou moins le mot, mais si le cœur de Nova Russia, le cœur de la dimension de la mère patrie est atteinte, à ce moment-là, on utilisera toutes les autres armes et ce n'est pas du bluff. Mais il n'y a rien de nouveau. Ça a toujours été la doctrine militaire soviétique puis russe.
C'est peut-être pas nouveau, mais est-ce que c'est plus urgent? C'est-à-dire que je voudrais vous citer l'un des conseillers de Vladimir Poutine qui était hier invité de la BBC, nos confrères anglais. Il s'appelle Sergei Markov et voilà ce qu'il disait à l'endroit des Anglais. Il disait, je préviens les auditeurs britanniques qu'ils devraient se tenir prêts à l'utilisation d'armes nucléaires contre les pays occidentaux et notamment contre la Grande-Bretagne. Nous n'allons pas tuer tout le monde, mais nous pouvons tuer beaucoup de personnes dans d'autres pays.
Oui, c'est une menace, puisque l'Angleterre est, il a été cité d'ailleurs, hein, Washington, Moscou et à la surprise, Washington, Londres et à la surprise générale Bruxelles, qui n'a pas dû se remettre de l'idée même d'entrer dans le club des grands opérateurs militaires. Mais sur le fond, il dit aux Anglais qui sont les plus allants, les plus volontaires, ceux qui ont livré le plus d'armes, et y compris des armes extrêmement efficaces aux Ukrainiens, vous êtes allés tellement loin que pour nous, vous êtes un belligérant et vous prenez donc le risque d'une réplique. Mais le débat, en fait, il est sur les limites de l'exercice. Aujourd'hui, ce qui apparaît clairement, c'est que les Russes sont en retraite sur le front territorial. Ils n'ont plus la maîtrise aérienne. Le seul truc qui fonctionne bien encore chez eux, c'est l'artillerie. Une bonne vieille artillerie des années 60 qui indistinctement tire n'importe où et n'importe comment et qui commence à viser des centres purement civils et pas seulement des centres stratégiquement militaires. Et donc, pour détruire cette artillerie, il faut aller en profondeur dans le territoire russe. Il y a eu déjà des incursions à Belgorod et ailleurs pour détruire des centres de munitions ou des dépôts de carburant. Les Russes ont dit, oui, mais ce ne sont que des accidents. Ils n'ont pas joué l'escalade. Maintenant, leur retraite éperdue à l'Est et puis la situation compliquée pour eux à Kherson amène mécaniquement à dire, attention les gars, si vous allez au-delà de la ligne de front, nous, on va continuer à bombarder pour bien montrer que on est encore là et que cette guerre n'est pas terminée. Mais si vous, vous dépassez les limites, ce que les Américains ont dit depuis le début, hein, ils ont bridé une partie de leurs équipements livrés à l'Ukraine pour éviter qu'elle aille au-delà d'un certain kilométrage, afin d'éviter que ça passe de l'autre côté de la frontière. Il n'y a aucun bombardement de l'autre côté de la frontière, il y a juste des unités de forces spéciales, des commandos ukrainiens, qui sont allés faire
et
sauter des débris.
Et c'est ça qui pourrait changer ?
Bah, en tout cas, les Russes sont en train d'expliquer que les demandes ukrainiennes de nouvelles livraisons d'armes, de l'arme beaucoup plus offensive avec des kilométrages plus importants, posent des problèmes majeurs qui pourraient amener la Russie à répliquer sur le fournisseur et pas seulement sur le belligérant.
Alain Boer, quand vous dites le fournisseur, au fond, il l'a d'ailleurs précisé hier et le ministre de la Défense a été encore plus clair juste après le discours de Vladimir Poutine. Il a dit la Russie ne combat pas tant l'Ukraine que l'Occident. Ça veut dire que nous sommes considérés véritablement comme des ennemis et donc comme des cibles.
Oui, il l'a dit d'ailleurs, on est des parties au conflit, mais même si on n'est pas des belligérants, parce que l'art de la nuance...
Donc
est
nous
quand
on
même...
dit non, nous ne sommes pas co-belligérants, Vladimir Poutine dit si, vous êtes pleinement co-belligérants.
Alors, il ne le dit pas exactement comme ça, il dit on pourrait aller jusqu'à penser que vous êtes vraiment... Alors, le mot belligérant n'existe plus dans le droit international, c'est partie au conflit, alors, on est partie au conflit, on fournit officiellement et ouvertement... des armes, mais on ne fournit pas de soldats, on ne combat pas sur le terrain, mais on forme des unités ukrainiennes. Il y a un enjeu qui est de dire, attention, maintenant, jusqu'à présent, on a dit, bon, allez, ça fait partie du jeu, on envahit, vous livrez des armes, il y a une sorte d'équilibre de la terreur. Maintenant, c'est fini. Le niveau d'équipement que vous avez fourni à l'Ukraine, la capacité qu'ils ont de les utiliser, la déroute de notre armée dans la zone Kharkiv-Kharkov et le risque qu'il y a que nous perdions Kherson, nous amène à dire attention, les livraisons d'armes maintenant entrent dans les limites que nous n'acceptons plus.
Avec cette question des limites, des frontières et des territoires. Vous le disiez, jusqu'alors, il y a quand même des frontières qui sont encore relativement respectées. Les Russes, finalement, ne bombardent pas encore complètement aujourd'hui. Mais il y a aussi cette question de l'action, y compris sur nos sols à nous, occidentaux. Je voudrais que vous écoutiez les propos de Vladimir Osetchkin. Il est un opposant russe qui a trouvé le refuge politique en France. Il s'est installé à Biarritz. Et il a raconté à notre consoeur, Cécile Olivier, qui a été le rencontrer à Biarritz, qu'il avait été menacé, visé par un fusil, plaqué au sol avec ses enfants. Écoutez.
Les faits se seraient produits à Biarritz où réside Vladimir Osetchkin. Le soir du 12 septembre, il dîne en famille dans sa résidence lorsqu'il aperçoit un point rouge dans sa direction.
Je donnais le manger à salon, à notre salle de manger. J'ai vu petit point rouge. Et tout de suite, pour reprendre mes enfants, ce sol.
Vladimir dit avoir été mis en garde peu avant contre un homme qui aurait des liens avec les services secrets russes venus en France pour le tuer.
Une enquête a d'ailleurs été ouverte en France pour menace. Est-ce que ça veut dire que les services russes sont présents sur le sol français et qu'ils sont actifs sur le sol français ?
Les services russes sont présents sur le sol français, actifs sur le sol français. Ils ont même mené des opérations homicides dans d'autres pays occidentaux. Il n'y a pas si longtemps, en Grande-Bretagne, contre un ancien agent des services de renseignement. Et pour eux, la logique de l'élimination du traître fait partie des règles du jeu, clairement annoncées. Il y a même une unité particulière créée dans les années 40 et qui existe toujours dans le renseignement extérieur et le renseignement militaire russe, le SMERSH, qui vise à SMERSH-Pionam, tuer les espions, qui visait à tuer les dissidents, les opposants et les anciens espions passés passer à l'Ouest. Donc, ça n'est pas une nouveauté. Il y a d'ailleurs eu régulièrement. Il y a d'ailleurs régulièrement.
Ce récit, donc, vous paraît crédible. Et vous vous dites, aujourd'hui, en France, on pourrait s'attendre à ce qu'on a vu parfois sur le sol britannique, par exemple. En effet, des Russes empoisonnés, des Russes visés.
Oui, bien sûr. En tout cas, du point de vue de Moscou, c'est légitime et normal puisque ce sont des traîtres. Donc, dans leur logique à eux, même si ça peut nous choquer, ce sont des traîtres et donc ils établissent régulièrement des listes de gens qu'il faut menacer, etc. Alors, la partie crédibilité est toujours un sujet qu'il faut toujours prendre avec d'immenses précautions. Un point rouge peut être des tas de choses et pas seulement un fusil de
sniper. Alors, il dit avoir entendu le son de deux tirs que ses voisins confirment aussi avoir entendu. Alain Boer, si on tire le scénario jusqu'au bout, c'est-à-dire on tire le scénario d'une escalade, d'un Vladimir Poutine qui en effet met en action ce qu'il a menacé de faire, c'est-à-dire envoie une bombe nucléaire tactique sur l'Angleterre par exemple ou ailleurs, nous serions automatiquement et immédiatement entraînés dans la guerre.
Oui. Ce sont les principes des traités de l'Alliance Atlantique sur l'assistance automatique à un pays. Voilà, mais je ne crois en rien à cette éventualité.
Vous dites « je n'y crois en rien », quand vous entendez par exemple les Américains qui, depuis le début de cette guerre, honnêtement, ont eu des renseignements qui paraissaient crédibles et que nous-mêmes, nous avions du mal à croire au début, mais tout ce qu'ils avaient dit...
On avait tous les mêmes renseignements. Ils avaient un élément en plus, c'était une source humaine de très grande qualité qui a permis d'accélérer leur acceptation de la réalité. Même le président Zelensky, je ne sais pas si c'est une taupe, en tout cas, ils ont indiqué à un des sommets qu'ils avaient une source humaine de très grande qualité. Et donc, la source humaine de très grande qualité, c'est ce qui change tout dans l'enseignement.
Mais ma question, c'est quand Joe Biden dit hier qu'il prend au sérieux les déclarations de Vladimir Poutine et qu'il ajoute se préparer à répliquer en disant qu'il y aura de sévères conséquences si le président russe passait à l'acte, ça veut dire qu'en tout cas, il n'écarte pas cette idée.
Je crois que l'usage d'une arme nucléaire tactique est plus probable en Ukraine si les forces russes étaient en déroute et notamment en Crimée, qui est vraiment un sujet extraordinairement sensible à Moscou, beaucoup plus que Donetsk, Lugansk, Kherson ou je ne sais pas quoi. Mariupol, c'est un sujet plus compliqué parce que c'est vraiment le contrôle de la mer Noire, enfin de la mer d'Azov en tout cas. Mais au-delà de cela, l'usage de l'arme nucléaire tactique dans la logique militaire russe, et si on suit les éléments de la doctrine, puisque c'est ce que Vladimir Poutine et ses généraux font, c'est un usage en Ukraine.
Alain Boer, essayons d'aller quand même plus loin aussi sur notre capacité, nous, à répondre si nous étions, même si je comprends bien que ce scénario, à vos yeux, n'est pas immédiatement crédible, si nous étions entraînés dans une guerre, est-ce qu'on est prêt ? Est-ce que militairement, aujourd'hui, on a beaucoup parlé de notre difficulté à avoir à la fois, nous avons visiblement un bel arsenal, mais peu de munitions, en tout cas peu de munitions pour tenir la durée. Est-ce vrai ?
Nous avons un petit arsenal de grande qualité, très complexe technologiquement, pour faire des guerres courtes et de projection. Nous avons oublié ce qu'était la possibilité d'une défense opérationnelle du territoire sur ce que le chef d'état-major des armées, qui le premier, avec beaucoup de lucidité et de courage d'ailleurs, c'est pas si facile d'aller voir les gens en disant « ça fait 20 ans que vous désossez l'armée ». Certes, l'opération Sentinelle inventée par Jean-Yves Le Drian nous a permis de sauver l'armée de terre contre Bercy, qui était en train de finir de nous liquider. Mais maintenant, on a besoin de réarmer en munitions, de réarmer en équipement. Et c'est non seulement la haute intensité, mais surtout la longue intensité. Le grand changement, c'est que la haute intensité, c'est court. La longue intensité, c'est une guerre longue avec énormément de moyens, des dizaines de millions d'obus qui sont envoyés, des équipements qu'il faut commencer à reproduire. Nous avons plus de lignes de production. Les Anglais et les Américains non plus. Ils sont en train de rouvrir leurs usines d'armement parce qu'à force de livrer des équipements à l'Ukraine qui en démontrent la capacité et l'efficacité, ils se sont dépouillés eux-mêmes d'une partie de leurs équipements. Ce ne sont plus seulement des réserves. Ce sont les équipements utiles comme nos canons César.
Les canons César qu'on a donc envoyés.
Oui, mais ce ne sont pas ceux qui étaient dans un dépôt en réserve. Ce sont les canons utiles au fonctionnement de nos armées. Donc on dit beaucoup que les Français fournissent peu et pas assez par rapport aux autres, mais on fournit au plus de ce qui est possible sans dépouiller totalement.
On est en train de se dépouiller, c'est tout à fait assumé, mais la réalité c'est que ces canons qui sont là-bas, on ne les a plus ici, de fait, on n'a pas suffisamment de stock.
Ce ne sont pas des réserves.
On n'a pas de surplus.
Ce ne sont pas des stocks, ce sont les équipements utiles. Et donc le vrai sujet maintenant, il est de réinvestir massivement, et je crois que le ministre des Armées...
Il a dit nous sommes dans une économie de guerre, et il a demandé aux industries d'armes françaises de relancer clairement la production.
Oui, mais la production, ça va être à la fois de l'équipement hautement sophistiqué, qui nécessite beaucoup de gens, qui est très long à monter, qui nécessite beaucoup de pays, mais aussi de réarmer au sens de l'équipement plus conventionnel, plus pratique, plus statique, et puis surtout de relancer une défense opérationnelle du territoire. Ce qui fait la force des Ukrainiens, c'est leur résistance citoyenne. C'est un sujet qui a
Moral, au fond.
Oui, et puis c'est surtout le fait que les citoyens se sentent engagés à défendre leur territoire.
Nous, ça n'est pas le cas en France.
Depuis 1989-90, on rêve d'un univers bisounours heureux qui gambade dans la pampa avec uniquement des consommateurs, des fournisseurs et des clients. Tout ceci, Vladimir Poutine, dans un grand coup de pied dans l'arrière-train, a réveillé tout le monde en se rappelant que le territoire, ça se défend d'abord avec des citoyens. Le patriotisme, c'est une affaire de la nation et du peuple, autant que de l'efficacité, la professionnalisation des armées. Ça marche sur deux pieds. Les Ukrainiens en font la démonstration. C'est pas seulement les armements qui sont en train de gagner, c'est le peuple ukrainien.
Si je vous comprends bien quand même, Alain Bauer, nous ne sommes pas véritablement prêts militairement, ou en tout cas pas prêts, s'il y avait une guerre longue, et nous ne sommes non seulement pas prêts moralement, parce que aucun homme français ou femme français ne voudrait véritablement combattre pour son pays.
Ah, je crois pas, non. Je crois que moi, fais extraordinairement confiance aux citoyens de ce pays pour défendre leur pays. Au contraire. Mais je pense qu'il faut leur demander. Je pense qu'il faut relancer la défense opérationnelle du territoire, la garde nationale,
je veux bien comprendre
les réservistes.
Ce que vous dites, c'est qu'au fond, si. Les Français, les jeunes Français, quand on voit là les images de Russes qui quittent le pays pour ne pas avoir à combattre, vous vous dites à l'inverse, si on demandait aux jeunes Français d'aller sauver leur pays et d'aller au front.
Ils seraient là.
Ils seraient là.
Bien sûr.
Ils seraient là.
Oui, je pense qu'il y a deux mouvements à relancer. Un, les Français sont toujours très en avance sur leurs responsables politiques. C'est toujours très curieux sur des tas de sujets sociaux et aussi sur le sujet de défense de leur propre territoire, de leurs valeurs, de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. Alors, en général, on explique que ce sont des Gaulois réfractaires. Je pense que ce sont aussi des Gaulois qui peuvent faire la guerre, ou en tout cas, faire de la résistance et défendre leur pays. Mais le deuxième parti, il est de faire ce que le général Burkhardt demande, ce que le général De Villiers avait demandé, ce qui lui avait valu une punition dont tout le monde se rappelle, c'est qu'il faut réarmer le système. Le quoi qu'il en coûte, ça marche aussi pour les militaires.
Je voudrais que vous écoutiez ce que disait Emmanuel Macron hier à New York sur ce retour à l'âge des impérialismes.
Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. La France le refuse et recherchera obstinément la paix.
La France le refuse, mais que peut-elle faire ?
Bon, il se trouve que la France a... C'est un discours très gaullien, en fait. C'est le discours du général de Gaulle lors de la création des Nations Unies, où la France était le défenseur des petits pays, des non-alignés, de ceux qui refusaient la confrontation majeure entre l'URSS et les États-Unis. Donc, c'est un vieux classique. On l'avait beaucoup oublié. On s'était très otanisé, très américanisé, très occidentalisé. Mais sur le fond, la France, elle peut parfaitement être la voix. Alors, au nom de son histoire propre de Commonwealth ou d'Empire colonial, qui est un peu le non-sens du discours d'Emmanuel Macron. Hein, parce que quand il parle des colonisés, on se demande à qui il parle et de qui il parle et d'où il parle. Mais sur le fond, ce que vient de dire l'Inde en disant à Poutine, devant Poutine, bon, il va falloir arrêter de rigoler, ce que vient de dire la Chine, maintenant c'est le temps du cessez-le-feu, c'est la fin du processus de la fameuse alliance alternative à l'Occident. Il y a une alliance alternative à l'Occident, parce que l'Occident n'a jamais été aussi faible dans l'univers mondial. Les dizaines d'abstentions sur les sanctions contre la Russie sont un indicateur, y compris le Sénégal et des pays qui appartiennent historiquement à notre sphère d'influence, on va dire, montrent à quel point nous sommes affaiblis. Mais l'idée de rétablir une troisième bloc, un troisième espace où la France pourrait, entre les deux, trouver à la fois la voie du dialogue, la voie du cessez-le-feu, la voie de la négociation et la voie de la restabilisation, car cette guerre est une guerre totale, elle est une guerre à la fois militaire, mais c'est une guerre des céréales, c'est une guerre de l'énergie, c'est une guerre des installations civiles. L'idée qu'on bombarde une centrale nucléaire ne serait venue à personne il y a encore mois, jamais. Donc on est bien en train de reconstruire un univers mondial, et de ce point de vue-là, la France, elle peut retrouver son espace naturel, et c'est très gaullien.
Et c'est très gaullien. Alain Boer, responsable du pôle sécurité, défense, renseignement au Conservatoire national des arts et métiers. J'ai envie, évidemment, ce matin, de croire à votre optimisme quand vous dites, enfin, optimisme, que s'il y avait, vous espérez que ce ne serait qu'un scénario à la baisse. Je rappelle votre dernier livre aussi, on parlait d'espionnage et de services secrets à l'instant, L'espionnage pour les nuls, aux éditions First. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.